Alors, l'idée de parler des relations entre l'Italie et l'Albanie m'est venue à l'issue d'un voyage que nous avons entrepris avec des amis dont la fille est mariée avec un Albanais, ce qui nous a permis de faire un périple dont vous voyez le parcours pendant une douzaine de jours en étant reçus par des familles parenté avec le jeune marié. Alors voyez, nous sommes partis, pour vous familiariser un peu avec la géographie de l'Albanie, nous sommes partis de Tirana ici, après c'est l'ancienne capitale, Kruja, et nous sommes descendus sur Durrës, la ville centrale ici, Berat, dont vous verrez une image, Apollonia, qui est une cité gréco-romaine, Vlora, c'est l'ancienne Valona des Italiens, Durrës étant Durazzo. Ensuite, nous sommes allés dans la grande cité balnéaire de Saranda, d'où nous avons rayonné vers Butrint, là, qui est aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous sommes remontés à travers les montagnes jusqu'à Korça, que vous verrez tout à l'heure, auprès du lac Dohrid, pour le retour à Tirana. Alors, nous avons constaté, par exemple, que la personne la plus âgée se souvenait encore de la colonisation mussolinienne. Alors que les jeunes vont suivre leurs études dans les universités italiennes. Les ferries italiens accostent à Vlora ou à Durrës. Les touristes occidentaux les plus nombreux sont les Italiens. Et vous vous souvenez sans doute tous, en 1991, de la ruée des Albanais sur les côtes italiennes. C'était la première migration de masse, sans doute beaucoup plus modeste que celle que nous avons vue en 2015. Alors, en effet, l'Italie péninsulaire n'est séparée de l'Albanie que par la mer Adriatique, et l'Albanie se trouve à l'endroit où la mer Adriatique est la plus étroite, c'est le canal d'Otrante, ou l'étroit d'Otrante, et il y a environ 70 km entre Brindisi et Valona, ou Vlora en albanais. 70 km, c'est en gros deux fois le Pas-de-Calais, et c'est la distance entre Orléans et Gien. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement important. Et de part et d'autre, la parenté du relief est patente. Vous avez donc la chaîne des Apennins ici, et en face, de l'autre côté de l'Adriatique, vous avez ce qu'on appelle les Alpes dinariques, qui s'achèvent en Grèce. Et sur ces côtes règne le climat méditerranéen, avec bien entendu tous ses avantages, mais aussi quelques inconvénients. Ces montagnes introduisent bien entendu une nuance continentale dans le climat. Elles font jusqu'à 3000 mètres d'altitude, parfois pas tout à fait. Elles sont essentiellement composées de calcaire, donc il y a des parentés évidentes en ce qui concerne les conditions naturelles. Alors, depuis l'Antiquité, les relations n'ont guère cessé dans les deux sens, mais avec des inégalités. Bien sûr, il y a des différences de puissance, de développement, de niveau de vie. Et tout cela est à l'avantage de l'Italie. Je vous rappelle que l'Italie, c'est 300 000 km² et 60 millions d'habitants à l'heure actuelle. Alors l'Albanie, c'est 30 000 km², c'est-à-dire un dixième de l'Italie, et c'est 3 millions d'habitants, c'est-à-dire un vingtième de la population. Alors certaines séquences ont été particulièrement fortes. L'incorporation de l'Albanie dans l'Empire romain, la longue mainmise de Venise sur les ports albanais, la colonisation mussolinienne au XXe siècle. Mais les ruptures ont existé, rarement complètes. Pendant plusieurs siècles, l'Albanie est passée sous le joug des Turcs à partir du XVe siècle et, d'une manière récente, pendant 50 ans, un communisme très dur et très fermé s'y est installé après la Seconde Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, les relations qui se développent entre l'Albanie et l'Italie sont beaucoup plus apaisées et l'Albanie est même à la veille d'entrer dans l'Europe puisque celle-ci a accepté sa candidature. Alors, nous allons Donc, commencer par le premier épisode, qui est celui de la conquête par Rome de l'espace albanais actuel. En ce qui concerne l'Italie, pas de problème. Elle est sous le joug des Romains depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ, à peu près au moment des guerres puniques. Et en face, je suis obligé de prendre comme référence, l'Albanie n'existant pas à cette époque-là, je suis obligé de prendre comme référence le territoire actuel de l'Albanie. L'État albanais s'est constitué seulement en 1912. C'est donc un État qui a tout juste 100 ans, quelques années de plus. Et vous voyez donc cet État, on voit l'Italie tout à fait à l'extrême gauche, et vous voyez le détroit, en quelque sorte, le détroit d'Otrante, qui sépare les deux États. Alors, si l'Albanie n'existe pas, à l'époque du 3e siècle avant Jésus-Christ, au moment où Rome met la main sur l'ensemble de l'Italie, vous avez une carte ici de l'ancienne Yougoslavie, en gros, et c'est en violet, ce sont les peuples illyriens qui occupent tout cet espace, et l'Albanie se trouve en gros, vous voyez, c'est ça l'Albanie. Donc, l'Albanie est à la fois entre les mains de populations grecques, ce sont des peuples qui sont en quelque sorte marginaux, les noms ne vous disent peut-être rien, mais enfin, il y a les Molosses, par exemple, tout de même, qui ont laissé leur nom dans la langue courante, et puis les Chaoniens, qui sont sans doute un peu plus importants. Et les Corinthiens ont même installé des colonies comme Épidamnos, que nous verrons tout à l'heure, et Apollonia, dont je citais le nom auparavant. Mais le nord de l'Albanie actuelle, c'est-à-dire tout cela, est occupé donc par ces populations illyriennes sous la forme de petits royaumes qui sont parfois occupés, colonisés par des populations grecques. Et c'est de là que viendront donc se constituer les populations albanaises. C'est à peu près autour de l'an 1000 qu'une population albanaise avec une langue particulière va se constituer. Donc les Albanais descendent des Illyriens. Alors la première intervention romaine est liée à l'action des pirates illyriens. Les pirates illyriens sont des gens qui sont logés, vous voyez, dans ce dédale d'îles, de détroits qui caractérisent la côte de la Croatie actuelle. Et ces pirates s'en prennent au commerce des Romains, à leurs installations de la côte péninsulaire. Et une première guerre s'ensuit en moins 229, puis une seconde en moins 219. Et c'est à cette occasion que les Romains prennent pied dans cette zone et ils ne s'y installeront définitivement qu'en moins 168. Alors à ce moment-là, en moins 168, vous voyez l'Albanie qui est ici est donc intégrée dans les provinces de Macédoine et de l'Épire. Bon, commence alors 6 siècles de domination romaine poursuivis par 10 siècles de domination byzantine. Alors, les traces en sont encore tout à fait vivaces. Alors, les villes grecques, qui étaient des colonies ou des cités des Chaoniens, ont été occupées et embellies par les Romains, et leurs ruines, dont certaines sont maintenant inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, manifestent la splendeur de cette civilisation. Alors, voici les ruines d'Apollonia, qui se trouve donc à proximité de la côte. C'était même, il y avait un port qui était adjoint à cette ville, mais il se trouve maintenant à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Alors vous avez cette très belle colonnade ici, qui est la colonnade du Bouleterion, c'est-à-dire, disons, le conseil municipal. On a parlé du Bouleterion à propos de Palmyre, par exemple. Vous voyez, la façade du Bouleterion a été remontée pour devenir en quelque sorte la caractérisation du site. Et vous avez ici un omphalos qui est dédié à Apollon, qui est bien entendu le dieu protecteur de cette cité. Alors, c'est une cité qui est fouillée seulement en partie. Alors, vous avez ici des portiques qui précèdent des boutiques Bien entendu, tout cet espace de collines, doit être bien entendu fouillé, mais quand on ne sait pas très bien. Alors, une autre vue, par exemple, assez spectaculaire, c'est celle de Butrotos. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, Butrint, en albanais. Alors, c'est une cité assez extraordinaire. Vous voyez, c'est une colline, en gros, circulaire, et qui se trouve au milieu de lagunes, et qui sont elles-mêmes reliées par un canal naturel avec la mer Méditerranée. Et tout cela est protégé par soit des marais, soit une montagne. Eh bien, Butrint ou Butrotos est célèbre dans la mythologie grecque pour avoir hébergé Andromaque, qui avait été mise en esclavage au moment de la guerre de Troie et qui avait été donc remariée avec le maître de cette cité. Alors, vous voyez, c'est une cité très spectaculaire et qui possède également de très belles ruines, comme par exemple ce théâtre dont on voit très bien la scène et le mur de scène, et la cavea, les gradins, et la proximité de la nappe phréatique fait que de temps à autre, eh bien, l'avant-scène est occupée par de l'eau. Vous avez également une autre ville qui s'appelle Phoenicae, qui est moins célèbre et moins spectaculaire, mais on voit encore très bien l'arc du théâtre, ici, avec le mur, mais c'était une cité moins importante, et les murs étaient tout à fait cyclopéens. Alors, troisième cité, eh bien, c'est Epidamnos, qui est devenue pour les Romains Dyrrachium, et qui est à l'heure actuelle Durech, après avoir été Durazzo pour les Italiens. Alors, il y a un amphithéâtre assez extraordinaire, mais dont les gradins sont écroulés, et vous avez les vomitoriums, là, ou les vomitoria, pour être précis, qui permettent l'arrivée des spectateurs, ou ici l'arrivée des bêtes ou des gladiateurs. Eh bien, Dyrrachium est célèbre parce que c'est le point d'entrée des Romains dans la péninsule des Balkans. Vous voyez, par exemple, la voie Appienne arrive ici à Brindisi, ensuite rupture pour prendre le bateau, et c'est à Dyrrachium, donc l'ancienne Epidamnos, que le déchargement se fait. Et vous avez la via Egnatia, qui progresse assez difficilement, parce qu'il y a beaucoup de montagnes, en passant par Thessalonique actuelle, la grande ville du nord de la Grèce, Philippe, extrêmement célèbre, dont les ruines sont magnifiques, pour aller jusqu'à Byzance, Constantinople. Alors, vous voyez, sur le plan stratégique, c'est extrêmement intéressant pour l'Italie, donc pour l'Empire romain. Alors, le souvenir de cette époque est aussi présent par une curieuse population. C'est celle des Valaques. C'est une minorité de 250 000 personnes qui sont disséminées en noyaux dans les Balkans et notamment en Albanie. Nous avons rencontré des Valaques au cours de notre pérégrination, nous avons même été invités à déjeuner avec eux, et on a pu discuter justement des problèmes de cette population. Et ils se prétendent descendants des légions de Pompée. C'est beaucoup dire parce que j'ai vérifié, Pompée ne s'est trouvé dans la région albanaise qu'en moins 49 et pendant quelques mois seulement, pendant la guerre civile qu'il a opposée à César. Mais leur langue est une langue romane et ils vivent au milieu des albanophones et des hellénophones. Donc ce sont des gens qui ont une origine sans doute très particulière par rapport aux populations qui les entourent. Autrefois, c'était surtout des bergers itinérants. Ils sont devenus d'habiles commerçants et se sont fait reconnaître comme minorité par l'Europe. Et vous voyez ici dans cette scène un Valaque qui agite le drapeau qu'ils se sont donné. Vous voyez, c'est une sorte de soleil éclaté sur une couleur blanche. Et ils ont leur drapeau, mais ne réclament pas d'État. Seulement, ils veulent la reconnaissance de leur langue et de leur culture. Et ils affirment bien haut leur spécificité. Ils se rencontrent pratiquement tous les ans dans des sortes de congrès où ils affluent de partout. Alors, plus largement, c'est presque donc un épiphénomène, plus largement, c'est à l'époque romaine que s'est installée la religion chrétienne. Et vous avez, par exemple, une église qui date du VIe siècle. Donc, nous sommes pas tellement loin des débuts de la naissance et du développement de la religion chrétienne. C'est sur le site de Boutrotos, de Butrinthe, vous savez, la colline que je vous ai montrée tout à l'heure. Et c'est une église, vous voyez, brique et pierre, avec un plan qui ressemble aux basiliques romaines. Alors, disons que la religion chrétienne, après le schisme de 1054, mais déjà bien avant, les différences s'étaient accusées, est devenue l'Église orthodoxe, ou les Églises orthodoxes. Celle-ci est encore tout à fait présente, malgré les siècles de domination ottomane et de conversion au culte musulman, comme en témoignent les nombreuses églises qui datent, ici vous avez Mésopotame, qui date du XIe, XIIe siècle, avec briques et pierres. Vous avez également des monastères, comme celui qui se trouve auprès du lac d'Oride. Là aussi, toujours le même type de construction, de magnifiques peintures qui présentent les saints du calendrier donc orthodoxe. Donc, les témoignages sont tout à fait évidents. Alors, le catholicisme romain a beaucoup moins bien résisté, mais il n'a pas été totalement abandonné. Il a été maintenu par les descendants d'Italiens, nous allons parler de Venise par exemple, après les siècles de domination. Et il y a un cas particulier. Ah, j'avais Mère Teresa, elle a disparu. Ah non, là voilà. Non, ben, c'est moi qui ai fait une bêtise. Alors effectivement, ce que je voulais vous montrer, c'est que comme dans beaucoup de pays qui étaient au-delà du rideau de fer, eh bien, le retour à la religion se marque par des constructions nouvelles. Et vous avez par exemple à Tirana une nouvelle cathédrale orthodoxe avec un clocher extrêmement élevé qui peut faire penser en quelque sorte à un minaret. Il y a sans doute une contamination architecturale. Alors, justement, j'allais un peu vite. Alors, le culte romain n'a pas été totalement abandonné, puisqu'il y a Mère Teresa, qui est de souche paternelle albanaise, et dont le prestige est grand en Albanie, puisqu'on a donné son nom à l'aéroport de Tirana. L'aéroport de Tirana, c'est Néné Teresa, hein, Mère Teresa, dans cette langue. Eh bien, à partir de 395, à la mort de Théodose, vous savez que l'Empire romain s'est séparé en deux entités et que l'Albanie fait désormais partie de l'Empire d'Orient et l'Italie est occupée par les royaumes barbares. Alors, Justinien recollera les morceaux pendant une trentaine d'années, mais la séparation devenait irrémédiable. Et alors, nous abordons la deuxième séquence importante, c'est la mainmise de Venise sur le rivage albanais. Alors, Venise est une cité qui a été fondée au VIe siècle, et elle était dominée à cette époque par Byzance, et elle tire sa fortune du commerce avec Constantinople. Alors, dès l'an 1000, elle installe ses comptoirs au long de la côte dalmate, et puis elle progresse, vous voyez, 1202 à Zara, Polato, alors là je ne sais pas pourquoi 1420, c'est sans doute beaucoup plus d'eux, elle est à 1205 à Ragus, c'est-à-dire l'actuel Dubrovnik, 1205 d'Urazzo, Butrint 1386, mais ce qui a surtout permis l'extension de la fortune de Venise, c'est la quatrième croisade, puisque vous savez sans doute qu'en 1204, elle réussit à détourner cette croisade qui était partie pour libérer les lieux saints sur Constantinople, qui est ainsi conquise, et par conséquent, Venise obtient un certain nombre de comptoirs, de colonies, vous voyez, la Crète jusqu'à Chypre, et de là, bien entendu, tous ces grands courants de commerce vont permettre l'enrichissement de la ville. Alors, les navires de Venise sont maîtres à peu près de tout cet espace, et de la mer Égée, une grande partie de la Méditerranée, et la mer Adriatique devient véritablement le golfe vénitien, et voyez que cet espace est extrêmement important, puisque c'est lui qui permet de contrôler les passages. Interdiction pour les Chinois ou pour les Pisans de pénétrer dans cet espace. D'où l'intérêt de Corfou et de Butrint qu'ils occupent. Alors, tout le commerce vénitien passe par là. Et c'est donc un espace très important. Et d'un côté, pour l'exportation, ce sont les laines, les armes, la verrerie. Et à l'exportation, ce sont les bois, les peaux, les matériaux de construction et surtout les épices qui viennent du Levant, n'est-ce pas, par l'intermédiaire de tous ces ports et tous ces comptoirs, les épices, le sucre, le coton. Et pour défendre tous ces comptoirs, toutes ces colonies, eh bien, Venise a levé des mercenaires dans cet espace albanais, mais aussi ailleurs, et un certain nombre d'Albanais se sont eux-mêmes installés à Venise. Les Albanais sont volontiers boulangers, barbiers. Ils pouvaient également servir... Ils faisaient la... Ah, je cherche le mot. Bon, laissons tomber. Toujours est-il que ceux qui connaissent bien Venise savent peut-être que une scuola existe à Venise. Je crois qu'il y a eu, il n'y a pas tellement longtemps, une conférence sur les scuolés de Venise. Alors, il y en a qui sont des scuolés professionnels, mais il y a aussi des scuolés nationales. Et les Albanais avaient leur école nationale, c'était celle de Sainte-Marie des Albanais, et qui était installée pas tellement loin de la basilique Saint-Marc. Et c'est une sorte d'auberge, le lieu où ils se réunissaient, ils avaient le droit de faire leur culte ou d'assumer leurs coutumes, eh bien, a été décoré par Carpaccio, selon le cycle de la Vierge, qui est à l'heure actuelle disséminé dans plusieurs musées. Je crois qu'il y en a une partie à Bologne, une autre partie à Venise, une autre partie, je crois que c'est à Florence, je pense. Bien, alors... Le problème pour Venise, c'est que c'est la progression des Turcs. Les Turcs qui ont conquis l'ensemble de l'Anatolie se rapprochent de Constantinople, voire même le débordent et soumettent les Bulgares et les Serbes. Et ils s'approchent, bien entendu, des comptoirs et des colonies vénitiennes. Alors qu'ils allaient atteindre l'Adriatique, eh bien, un homme se dresse contre les Turcs. C'est Skanderberg. C'est le fils d'un noble d'Albanie du Nord qui a été donné comme otage aux Turcs et qui est devenu à leur service un chef de guerre tout à fait talentueux, au point que dans son nom, il y a la référence à Alexandre le Grand. Et profitant d'une campagne des Turcs contre les Hongrois, eh bien, Skanderberg réussit à réunir autour de lui des princes albanais et en 1443, il fonde ce qui est le premier État albanais. Alors, cet État albanais, voilà, cet État albanais a été créé par Skanderbeg, que l'on trouve sur beaucoup de places en Albanie parce que c'est le héros national. On le voit ici devant un campanile, devant un minaret, c'est vraiment le symbole de l'Albanie, et avec le drapeau qui va imposer, qui est encore celui de l'Albanie, c'est l'aigle à deux têtes opposées sur fond rouge. Alors, beaucoup ont cru que c'était un drapeau du communisme, ça n'a rien à voir avec le communisme, c'est que les Albanais, en 1912, ont repris ce drapeau pour en faire, en quelque sorte, leur symbole. Alors, de 1443 à 1468, date de sa mort, Skanderbeg a résister à toutes les campagnes turques, d'où l'attention portée sur ce personnage par Venise, puisqu'il permet de protéger leur colonie, leur comptoir. Et il lui envoie des subsides pour résister aux Turcs. Paul II, le grand pape du Quattrocento, est également un admirateur de Skanderbeg, puisqu'il lui attribue le titre d'athlète du Christ. Et le roi de Naples fait même appel à lui pour qu'il lui envoie des mercenaires pour combattre des rébellions. Alors, en récompense des victoires remportées, eh bien, des terres et des villages ont été accordés à des Albanais dans la péninsule italienne. Mais les successeurs de Skanderbeg sont battus par les Turcs et en 1480, eh bien, l'État albanais est donc détruit et un coup sévère est porté au commerce vénitien. C'est en 1480, nous sommes aussi proches de 1492, la découverte de l'Amérique. La Méditerranée n'est plus le centre du monde et Venise amorce son déclin. La conquête turque est en partie responsable. Eh bien, la conséquence de cette défaite de la jeune nation, c'est qu'elle disparaît pour 4 siècles et demi et donc les Turcs vont implanter la religion musulmane, dont témoigne encore la présence de quartiers caractéristiques comme celui de Berat, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. C'est le quartier aux 1000 fenêtres et qui est assez spectaculaire, vieux quartier turc du XVIIIe siècle, qui fait en partie l'intérêt de cette ville. Vous avez également des mosquées, comme par exemple cette mosquée du XVe siècle au centre de Tirana, où encore je... Voilà. Ici, vous avez un personnage assez particulier, c'est Ali Pacha de Tepelena. Et tout ça pour vous dire, c'est une sorte de symbole. C'est que, contrairement aux autres populations balkaniques, les Turcs se sont volontiers convertis à l'islam. Et ils ont été séduits par cette religion, ils ont été longtemps des fidèles soutiens des Turcs. Et les Turcs leur ont confié, même à certains d'entre eux, des responsabilités importantes. Et bien voilà, le personnage, c'est Ali Pacha, il est mort en 1822. Donc c'est un personnage qui est au tournant du 18e et du 19e siècle. Il a combattu contre Napoléon, au moment où Napoléon mettait sur pied les provinces illyriennes. Et il a été une sorte de personnage admiré par les romantiques. Byron, par exemple, était tout à fait fier d'être reçu par Ali Pacha. Et vous savez peut-être qu'Alexandre Dumas va le prendre comme modèle dans le Comte de Monte Cristo pour assurer la vengeance contre le Comte de Morcerf. C'est Fernand, je ne me souviens plus exactement du nom, Mondrago, je crois. C'est en se fondant sur ce personnage qu'il détermine donc la fin de son roman. Donc, vous le voyez, les Albanais ont donc assez bien accepté la religion islamique. Mais pas tous. Et pour échapper à la conversion ou aux vexations infligées aux vaincus, parce qu'il fallait payer une taxe particulière quand on était infidèle, eh bien, des chrétiens albanais ont fui leur pays. Et ils ont fui leur pays en direction de l'Italie. Et en plusieurs vagues, les réfugiés se sont installés en Italie. Il y a d'abord eu la vague immédiate. Et puis il y a une autre vague, c'est celle des mercenaires vénitiens qui combattaient, qui ont dû refluer en Italie. Et puis il y a même eu, au XVIIIe siècle, un massacre de 6000 chrétiens sur la côte albanaise qui a déterminé également une fuite éperdue du côté de l'Italie. Alors ces réfugiés sont installés dans des villages dans l'Italie du Sud. Et voyez ces taches jaunes qui sont celles des Arbëreshë. Arbëreshë, c'est le nom qu'on donne à ces Albanais installés en Italie Alors, les plus nombreux sont en Calabre, voyez, mais il y en a également en Molise, en Basilicate, et également un noyau en Sicile. Eh bien, ces arbérèches ont gardé leur langue albanaise. Alors, effectivement, avec sans doute des modifications un peu comme les Québécois par rapport aux Français. Voici par exemple Piana degli Albanesi en Sicile. Eh bien, vous voyez que les Italiens, en quelque sorte, respectent la langue albanaise, puisque les panneaux sont en deux langues et peuvent être compris donc par ces Albanais. Alors, ils ont gardé leur coutume pendant longtemps, bon, maintenant c'est un peu terminé, leur coutume traditionnelle, leur drapeau, alors c'est le drapeau des Arbérèches, c'est le drapeau italien, mais avec l'aigle noir au fond, et les Italiens reconnaissent cette minorité, d'autant plus que l'Europe défend également ce type de population. Mais c'est une population qui est menacée par l'assimilation, parce que comme les Italiens de l'Italie du Sud, eh bien les Albanais ont eu tendance à émigrer à partir de la fin du XIXe siècle en direction de beaucoup de pays. Mais il y a à l'heure actuelle des défenseurs de la langue arbérèche, et notamment il y a une chaire d'arbérèche à l'université de Cosenza en Calabre. Et alors, nous passons à une troisième séquence importante, ce sont les relations avec le nouvel État albanais qui va naître en 1912, donc première étape 1912-1920. Alors, il est bien évident que les relations n'ont pas cessé après la conquête turque au XVe siècle. Venise a conservé Butrint, a conservé Corfou, des postes en Péloponnèse. Mais les modestes états de l'Italie divisée, vous savez qu'il y avait sept états, eh bien, ne pouvaient guère peser sur la politique balkanique des Turcs, qui étaient extrêmement puissants à cette époque-là. Mais tout va changer à la fin du XIXe siècle, notamment après 1870, lorsque l'Italie, faisant son unité, eh bien, fait incorporer le pays dans la grande politique internationale. Et cela au moment où l'Empire ottoman devient l'homme malade de l'Europe et où son affaiblissement ouvre la porte à toutes les convoitises et toutes les possibilités d'avancée territoriale. Mais l'Italie n'est pas seule dans le jeu. Sa faiblesse ne lui permet pas de jouer les premiers rôles. Elle doit tenir compte de la Russie, qui est la protectrice traditionnelle des orthodoxes, et surtout de l'Autriche-Hongrie. Alors l'Autriche-Hongrie est alliée à l'Italie sous l'égide de l'Allemagne, dans le cadre de ce qu'on appelle la Triplice, mais l'Autriche-Hongrie est en même temps concurrente. Il y a la fameuse affaire des terres irrédentes, mais également l'Autriche-Hongrie a annexé la Bosnie-Herzégovine en 1908, et vous savez que c'est à Sarajevo que va avoir lieu l'assassinat qui mettra donc le feu à toute l'Europe. Mais l'Autriche-Hongrie mène donc une politique d'extension qui inquiète l'Italie. Et l'Italie se rapproche de la Russie, mais elle ne peut se rapprocher de la France parce que la France n'est pas d'accord avec sa colonisation en Libye et Tripolitaine. Donc, elle reste fidèle à l'alliance avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Cependant, en 1912 et 1913, eh bien, vont se déclencher deux guerres dites balkaniques. Alors, vous voyez, la situation à gauche, c'est la situation donc de l'Empire ottoman avant qu'il ne soit dissous dans sa partie balkanique, le nom de Rumélia. Donc la Bulgarie, la Serbie et vous voyez le petit Monténégro vont s'allier en 1912 pour combattre l'Empire ottoman et réaliser soit leur unité, soit même leur indépendance. Alors voyez ce que ça donne après les deux guerres. Vous voyez, Roumanie, Bulgarie, la Bulgarie qui prend donc toute cette partie sud, la Serbie qui occupe le Kosovo, une partie de la Macédoine, le Monténégro qui augmente un petit peu, et, miracle, en 1912 et créé l'Albanie, et occupée tout de même par différents belligérants. Eh bien, en 1912, donc, l'Albanie devient indépendante. C'était peut-être pas quelque chose qui était obligatoire, mais il y avait un mouvement national en Albanie depuis les années 1870, et surtout, l'Autriche-Hongrie ne voulait pas que la Serbie ait un accès à la mer, se réservant d'avoir de petits États, Monténégro ou Albanie, pour faciliter son expansion éventuelle. Donc c'est pour ça que l'Albanie a été constituée en 1912. Bien, la présence d'un État tout à fait modeste était donc bien préférable. Surtout que les Serbes étaient les ennemis mortels, ça sera donc vérifié dans les années qui viennent, de la monarchie austro-hongroise. Alors, ce qui change, c'est que l'Italie, maintenant, fait face à un petit État affaibli, tout jeune, au lieu d'avoir affaire à un empire comme celui des Turcs. Alors, bien entendu, c'est la porte ouverte à toutes les possibilités d'influence ou même de conquête territoriale. Alors, l'occasion se présente avec la guerre de 14. Alors, je vous rappelle que l'Autriche-Hongrie a attaqué la Serbie, qu'elle jugeait comme responsable de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, et que l'Italie était alliée avec elle et avec l'Allemagne, et que normalement elle aurait dû prendre parti pour ces deux empires. Mais l'Italie a argué du fait que c'est l'Autriche-Hongrie qui avait déclaré la guerre, ce qui n'était pas prévu par les traités, et par conséquent elle n'a pas voulu participer à cette guerre en 1914. Et alors, à ce moment-là, ce sera la course entre les deux belligérants pour savoir qui va attirer l'Italie dans son camp. Il y a tout un enjeu diplomatique important, bien entendu, qui va se terminer par la victoire des Alliés, par le traité de Londres de 1915. Alors, contre son entrée en guerre, aux côtés des Français, des Anglais et des Russes, les Alliés promettent les terres irrédentes, bien sûr, une partie de la côte dalmate, la liberté d'action en Albanie, avec le port de Vlora, Valona pour les Italiens, et des territoires en Turquie. Et c'est ainsi que l'Italie va donc participer à la guerre aux côtés de la France et de la Russie. Alors, les Autrichiens, dans leur combat contre les Serbes, ont occupé, voyez en marron, une bonne partie de l'Albanie, et ils ont même contraint les Serbes à faire une retraite catastrophique en direction de Corfou, et par conséquent, vous voyez, l'Albanie est pratiquement à eux. Et c'est pour cela qu'en 1915-1916, les Italiens débarquent et s'installent ici, dans le sud de l'Albanie. Alors, il y a un troisième point ici en rose, c'est la République de Korça. Elle était convoitée par les Grecs. Vous voyez, l'Albanie était à la veille d'être dépecée. Et pour empêcher les Grecs, qui étaient des gens très ambigus, parce que d'un côté, le roi, qui était d'origine germanique, penchait pour les Allemands. Et de l'autre côté, le premier ministre, qui s'appelait Venizelos, penchait pour les Français, les Franco-Anglais. Et pour empêcher les Grecs de prendre cette portion, les Français sont arrivés et ont donc créé une sorte de république autonome s'appuyant sur les Albanais autour de la ville de Korça. Alors, c'est ce qui fait qu'à Korça, on trouve, je fais une petite diverticule là, on trouve un cimetière militaire français. Vous voyez, 640 soldats de l'armée française, très bien entretenus d'ailleurs. Et vous aviez le drapeau de la République autonome de Korça. Vous voyez, bien entendu, la fameuse aigle, mais les trois couleurs ici. Et les Français, ils vont rester 4 ans. Ils créent un lycée français, lycée de Korça. C'est le lycée où vont étudier les élites albanaises qui vont être, en quelque sorte, sous l'influence de la culture française. Le lycée sera fréquenté On a pu le visiter d'ailleurs, on a été très bien reçu par la directrice, mais il n'est plus lycée français, c'est un lycée professionnel. Et c'est là qu'ont étudié deux des personnages que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Ismail Kadare, hein, c'est le grand écrivain albanais, dont les livres sont très intéressants pour comprendre la situation à partir des années 40, et puis Enver Hoxha, qui va devenir donc le dictateur communiste. Alors, donc, à peine née, l'Albanie est menacée d'être dépecée. Et les Italiens ne sont pas les derniers à vouloir leur part. Mais dès l'armistice, les Autrichiens vaincus se retirent, ils sont mis hors jeu. Les Italiens occupent l'espace albanais et pensent s'y installer durablement, puisqu'on leur a promis en 1915 qu'ils pourraient donc avoir des intérêts. Mais au traité de Versailles, vous savez que c'est le président Wilson et ses points qui vont être suivis. Et au nom du principe des nationalités, eh bien, les grandes puissances restaurent l'Albanie telle qu'elle était en 1912. L'Italie est obligée de s'incliner. Elle plie bagage en 1920, et la France aussi. Alors, on passe à la quatrième séquence. C'est l'Italie à la conquête de l'Albanie, entre 1920 et 1945. En effet, l'Albanie est un pays qui est en proie à l'anarchie. Un noble du Nord qui s'appelle Ahmed Zoglou, que vous voyez ici en photo, devient président de la République en 1924, mais réussit à transformer cette République en royauté, en sa faveur, sous le nom de Zog Ier, en 1928. Entre parenthèses, c'est un des modèles d'Hergé dans le sceptre d'Ottokar. Hein, c'était le roi de Sildavie, et la coiffure en arrière et sa fine moustache, paraît-il, aurait inspiré le dessinateur belge. Eh bien, je considérais Zog comme un roi d'opérette, c'est vrai, mais c'est un personnage qui a voulu moderniser son pays en créant des hôpitaux, des écoles, des routes, différentes infrastructures. Ce qui l'a obligé, comme l'Albanie est un pays très pauvre, qu'il a obligé à faire appel à des capitaux extérieurs. Et ceux qui se présentaient, c'étaient les capitaux italiens. Donc les grandes sociétés italiennes, les banques italiennes, ont donc phagocyté l'économie albanaise, au point que Mussolini a proposé l'union douanière, incorporer en quelque sorte l'économie albanaise dans celle de l'Italie, l'union douanière à l'Albanie. Et en même temps, Mussolini impose la langue italienne comme deuxième langue, en envoyant des professeurs pour l'enseigner, et il impose même des officiers italiens pour commander la garde royale de Zog Ier. C'est vous dire que Zog devient une sorte de souverain fantoche. Et quand il résiste, eh bien, Mussolini fait bombarder le port de Durech en 1934. Ainsi, peu à peu, s'installe un protectorat italien en Albanie. Et le processus terminal, c'est l'invasion militaire du 7 avril 1939, dont vous voyez ici, on a accolé la photo à Zog, vous voyez ici le débarquement des troupes italiennes sur plusieurs ports, c'est 40 000 hommes, débarquent dans les ports albanais et défont facilement la petite armée albanaise de 4 500 soldats. Alors Zog est abandonné par l'élite politique du pays et par la SDN, il abdique et en faveur de Victor Emmanuel, il part en exil et passe en France avant d'aboutir à Londres. Alors, l'Albanie devient alors protectorat officiel dans le cadre du rêve de rétablissement d'une sorte d'empire romain. 30 000 colons et travailleurs temporaires italiens arrivent en Albanie et un gouvernement collaborateur, comme ça se faisait au fond durant la Seconde Guerre mondiale, est mis en place et met son armée à la disposition de l'occupant. 18 mois plus tard, vous le savez, en octobre 1940, l'Albanie devient la base de départ pour l'invasion de la Grèce avec l'objectif italien d'obtenir au moins Corfou et l'Épire grecque, la province qui jouxte l'Albanie, parce qu'il y a aussi une population albanaise dans cette Épire. Donc, voilà, l'Italie partit à la conquête de la Grèce, mais vous savez que ça s'est très mal terminé, qu'en plein hiver, des troupes peu motivées, peu expérimentées, ont été durement battues par la petite armée grecque. Alors, il y a eu ça, les pluies, la boue, etc., qui n'a pas favorisé, bien entendu, l'offensive italienne. Alors, comme ils sont ramenés à leur point de départ, eh bien, la parole passe aux Allemands qui, vous le savez, envahissent la Yougoslavie et la Grèce. Et même en 1943, au moment où Mussolini est emprisonné, eh bien, s'installent eux aussi en Albanie. Et je crois que si vous voulez avoir une idée de la situation de l'Albanie à cette époque-là, il faut lire un livre qui s'appelle « Chronique de la ville de Pierre ». La ville de Pierre, c'est Girokastër, c'est une petite ville du centre-sud de l'Albanie. Et il montre bien cet empilement successif d'autorités italiennes et avec l'intervention de la résistance, parce que à partir de 1941, eh bien, une résistance albanaise se développe, en relation d'ailleurs avec celle de Tito en Yougoslavie, et elle est menée par l'autre homme fort de l'Albanie, c'est Enver Hoxha. Enver Hoxha, qui donc dirige une résistance qui s'est renforcée dans les montagnes. C'était le fils d'un commerçant musulman de Girokastër, la même ville que Ismaël Kadaré. Ils se connaissaient, d'ailleurs on a reproché à Kadaré d'être en position ambiguë vis-à-vis du dictateur. Il avait fait ses études au lycée français de Korça, il parlait le français, il est venu à la Sorbonne les parfaire, et en France, il a découvert le marxisme, il avait des contacts avec les communistes, et il avait même écrit des articles pour l'Humanité. Et rentré en Albanie, il avait créé le Parti communiste. Et au retrait des Allemands face à l'armée rouge, eh bien, il a pris le pouvoir, il proclame la République populaire socialiste et la dictature du prolétariat. Alors le symbole s'étale sur le fronton du musée, très beau musée d'ailleurs de Tirana. Vous voyez, c'est l'ensemble du peuple. Vous avez la paysanne, l'ouvrier, vous avez même, vous voyez, on a embauché les Albanais antiques, hein, le bourgeois ici, et puis également ceux qui sont finalement des orthodoxes et d'origine grecque, voyez, qu'on reconnaît très bien à leurs chaussures. Alors, Enver Hoxha, c'est un doctrinaire pur et dur, un admirateur inconditionnel de Staline. Et quand Khrouchtchev a conduit la déstalinisation, eh bien, il est passé du côté de Mao Tse-tung. Et il a fermé totalement son pays. Il y avait une sorte de peur obsidionale des fascistes, des titistes, des staliniens, des occidentaux, bien sûr. Et cette peur, qui est entretenue aussi par la police politique, la sigurimi, eh bien, va couvrir le pays de sorte de taupinière de béton qu'on rencontre à peu près partout. Ici, c'est pas loin de Boutrotos, on n'est pas loin de la mer. Et vous voyez ces taupinières en béton pour deux hommes qu'on rencontre un peu partout et qui passaient aussi pour être des sortes d'abris anti-atomiques. Alors voilà donc un pays qui est muré, hein, pour 50 ans. Et donc, les relations entre l'Albanie et l'Italie sont bien entendu réduites à très peu de choses, niveau des ambassadeurs, niveau des organisations internationales officielles, jusqu'à la chute du mur en 1989. Cinquième et dernier épisode, ce sont les nouvelles relations à partir des années 90. Alors là, la situation est tout à fait nouvelle. C'est qu'après 1990, le duo Italie et Albanie est en quelque sorte a encore augmenté la disparité. Le miracle italien des années 50, 60, 70 a propulsé le pays parmi les grandes nations industrialisées. sixième, septième rang mondial, malgré les équilibres persistants entre le nord et le sud. Ce qui a donné du poids à l'État italien, devenu une république et qui a participé donc à la fondation de l'Europe. Le niveau de vie s'est élevé d'une manière très forte. À l'inverse, l'Italie a traversé près de 50 ans de pénurie, de sous-développement, de corruption. L'Albanie a traversé un épisode que les Albanais constituent comme un trou noir dans leur histoire. Et la chute du communisme a eu aussi pour effet d'entraîner une recrudescence de la misère et l'émergence de la violence des mafias, qui finalement étaient donc contenues par le régime autoritaire et qui se sont développées par la suite. Et l'état de l'économie étant désespéré, l'ouverture des frontières a déterminé une fuite considérable d'hommes jeunes en direction de l'Europe et notamment de l'Italie par bateau à l'aide des mafias de passeurs. Alors la traversée des 70 km prenait même en Zodiac quelques heures et à partir de mars 1991, un exode massif a touché les ports et les côtes de la Puglia, Brindisi, Bari, Otrante. Du 7 au 10 mars, 20 000 Albanais ont débarqué, au mois d'août 10 000, et l'épisode le plus spectaculaire, le voici, c'est le bateau Vlora à Bari. C'est un bateau qui ramenait du sucre de République Dominicaine ou de Cuba, je crois de Cuba, dans le port de Durech, et qui a été envahi par, on donne le chiffre de 20 000 Albanais. Il y en a partout, et vous voyez, il y en a une partie qui a débarqué. On en voit qui essayent de descendre, vous voyez ici, là. Et donc, c'est assez spectaculaire. Et il y avait guerre de nuit, où il n'y avait pas de débarquement de clandestins. Et cela, devant les caméras du monde entier, ce qui, bien entendu, donnait un tour dramatique à la question. Ben, les autorités italiennes, prises à l'improviste, ont été débordées, ont essayé de s'opposer à cet afflux en interdisant le débarquement. Mais les 20 000 vont être réexpédiés, sauf 1500. On va les réexpédier avec 40 dollars, de la nourriture et des vêtements. Et cela a fortement ému l'opinion italienne, parce que les Italiens, ils avaient tous dans leur famille quelqu'un qui avait émigré. Par conséquent, ils pouvaient se mettre facilement à la place de ces personnes. Ils avaient été donc très sensibles aux conditions d'émigration. Alors, il y a un certain nombre donc, d'Albanais qui ont été autorités arrêtés. Notamment, on les a envoyés vers l'Italie du Nord, où il y avait des possibilités d'emploi plus commodes. Et Rome a essayé de régler le problème avec Tirana, en octroyant une aide d'urgence à l'Albanie, à laquelle s'est associée l'Europe. Alors, l'exode, à partir de ce moment-là, a commencé à diminuer. Mais, en 1997, il y a une crise dite des pyramides qui a aggravé la situation en Albanie. Alors, c'est une crise classique. Vous avez des sociétés qui promettaient des revenus de 30% à ceux qui leur confiaient leur argent. Ce qui va déclencher dans un pays pauvre une véritable folie. Les uns apportent leurs économies, les autres les bijoux, les paysans apportent leurs troupeaux. Et c'était en fait une arnaque, c'est assez classique. Un certain nombre touchent effectivement ces 30% pour bien faire la publicité, mais en fait ceci se termine par une catastrophe. Enfin, la plupart ont été ruinés sans que l'État puisse les défendre. Alors cela a déterminé un nouvel exode en direction de l'Italie. Alors la crise de 2008... a mis un frein à cette émigration et on a même enregistré un mouvement de retour puisque paraît-il que 100 000 Albanais seraient revenus soit de Grèce, soit d'Italie parce que la crise, bien entendu, avait frappé les pays européens. Alors, tout cet épisode, bien entendu, porte préjudice à l'Albanie parce que ce sont des forces vives, des cerveaux qui quittent le pays. Alors, par contre, il y a un bénéfice, c'est que l'envoi des mandats, par exemple, aux familles constitue un apport vital et pour l'État des devises tout à fait intéressantes. Alors l'émigration depuis cette époque-là n'a jamais vraiment cessé. Alors il y a beaucoup de jeunes qui vont s'inscrire dans les universités italiennes, comme je disais au début. Et vous savez que dans la grande migration de 2015, il y avait des Albanais, à la fois comme migrants, mais aussi il y avait aussi des passeurs albanais. Donc, du fait de cette histoire, et aussi à cause des conditions naturelles, l'Albanie reste un des États les plus pauvres de l'Europe. Et en effet, les conditions naturelles ne sont pas très favorables. Voilà, voyons cette carte. Vous voyez qu'ici, en un peu plus foncé, vous avez un certain nombre de plaines littorales, dont certaines sont marécageuses, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les pays méditerranéens. Les eaux s'écoulent mal. Et à l'intérieur, il y a encore une plaine autour de Korça, mais pour le reste, c'est pratiquement l'ensemble des montagnes. 22% seulement de l'étendue du pays sont cultivables, ce qui limite bien entendu les ressources agricoles. Le pays, il y a peu de ressources naturelles. Le minerai le plus important, c'est le chrome, quatrième producteur mondial. Un peu de pétrole, un peu de gaz, mais peu de choses. Et ce pays est tout de même encore marqué par ce qu'on peut appeler les années de plomb et par la corruption. L'OCDE estime que 38% de la production du pays est entre les mains des mafieux, en cheville avec des hommes politiques ou des hauts fonctionnaires. L'agence non gouvernementale pour la transparence classe l'Albanie 113e sur 182 et l'un des derniers d'Europe. Le système judiciaire fonctionne souvent au profit des tricheurs et l'état de droit comme les droits de l'homme ont du mal à s'imposer. À trois reprises, l'Albanie a été recalée dans sa demande d'adhésion à l'Europe. Et les mafias albanaises, qui sont ultra-violentes, se sont souvent associées, voire même imposées aux mafias italiennes pour le trafic de cigarettes, de drogues, d'armes et pour la prostitution. Ce qu'on appelle là-bas les barons du crime tiennent le haut du pavé avec des 4x4 rutilants, n'est-ce pas, et de belles propriétés, alors qu'une partie notable de la population vit dans ce qu'on peut appeler en dessous du seuil de pauvreté, surtout dans les campagnes. Parce que dans les campagnes, on a décollectivisé les terres qui avaient été réunies dans des sortes de kolkhozes, et chacun se retrouvait avec quelques hectares et, bien entendu, un équipement tout à fait insuffisant pour mettre en valeur les terres. Alors, ce qui fait que, dans ces conditions, l'Albanie a des échanges commerciaux très modestes, déséquilibrés, largement déficitaires. Alors, l'Italie reste de loin le principal client. 53% des exportations albanaises vont en Italie. Et c'est l'Italie aussi qui est le principal fournisseur. 28% des importations albanaises. L'Albanie ne peut s'en tirer que par l'aide internationale, celle du FMI, de la Banque mondiale et de l'Europe. Alors, l'Albanie sollicite aussi des investissements étrangers pour créer l'activité, des équipements, fournir des emplois. Elle a des atouts à faire valoir, le bon marché et la jeunesse de sa main-d'œuvre, sa position stratégique sur l'Adriatique, une imposition limitée à 10%. Sur les entreprises. Et le Premier ministre a même proposé l'année dernière l'Albanie à 1 euro. 1 euro le mètre carré de terrain, par exemple, 1 euro le mètre cube d'eau. L'Italie est intéressée, bien sûr, mais n'est qu'au quatrième rang des investisseurs. L'investisseur le plus important, c'est le Canada. Elle est présente surtout, l'Italie, dans le tourisme, l'hôtellerie, les transports touristiques, hein, les grands ferries qui arrivent dans le port du Rech ou de Vlora ou de Saranda, et les touristes occidentaux, ils sont assez peu nombreux, il faut le dire, ce sont surtout des touristes qui viennent de Macédoine, de Bulgarie, de Grèce, c'est-à-dire les pays avoisinants. Eh bien, les touristes occidentaux sont surtout des Italiens qui viennent sur une très belle côte. Ah oui, je voulais parler des montagnes. Vous voyez, il y a tout de même des massifs assez élevés, avec des formes glaciaires modestes, mais tout à fait présentes, aux environs de 3000 mètres. Voilà, mais les côtes méditerranéennes, avec les petites îles, les eaux vertes ou bleues, peuvent satisfaire beaucoup de touristes avides de baignade. Et vous avez par exemple la station balnéaire la plus célèbre d'Albanie, c'est Saranda, avec sa belle baie en faucille, autour de laquelle les immeubles modernes, vous voyez, ont poussé comme des champignons. Beaucoup d'ailleurs n'ont pas été achevés du fait des crises. Alors, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est l'arrivée d'Italiens fuyant la crise dans leur pays. Le Monde disait qu'il serait 22 000 à l'heure actuelle et viennent tenter la réussite dans un pays qui apparaît un peu un pays neuf et surtout, bien entendu, dans la restauration. Alors, ceci montre, et ce sera ma conclusion, que l'Albanie est reconnue aujourd'hui comme un pays sûr, qui a fait de bons progrès dans beaucoup de domaines, que l'on peut y investir ou y travailler sans crainte. Et l'Europe l'a reconnue puisque, en juin 2014, elle vient de valider sa candidature à l'entrée parmi les 28, sans fixer de date précise, je dois dire, pour la réalisation définitive. Ainsi, peu à peu, l'Albanie entre dans le cercle des États normalisés, insérés dans l'économie de marché, fonctionnant de plus en plus selon les critères du droit et de la civilisation occidentale. De ce fait, les relations avec l'Italie sont plus apaisées, plus amicales, et des projets importants matérialisent cette nouvelle atmosphère. Alors, il est question d'un oléoduc traversant l'Adriatique et apportant le pétrole d'Azerbaïdjan, et il est même question d'un tuyau qui apporterait l'eau des montagnes albanaises vers la Puglia en proie à la sécheresse. Ces projets sont encore, je crois, en pointillé. Alors, il vient de se dérouler une semaine de l'Italie qui a été montée à Tirana et qui a attiré 170 entreprises de la péninsule intéressées par les perspectives qu'offre le pays. Donc, vous le voyez, Italie et Albanie collaborent maintenant d'une manière assez confiante. Et c'est par là que je terminerai mon exposé.
Est-ce que vous avez des questions à poser? Je suis sûre que vous avez des questions à poser.
Sur la langue, parce qu'on en a un peu parlé, mais c'est quoi cette langue? Elle est rattachée à quelque chose? C'est une langue isolée, l'albanais?
Je ne sais pas, non. Mais je pense que ça doit être une langue très, très particulière.
Tout comme l'hongrois ou le...
Enfin, ouais.
Est-ce que c'est cela?
Je sais que c'est une langue très difficile à apprendre, m'a-t-on dit.
Enfin, elle est très peu parlée. Enfin,
elle est parlée par 3 millions de personnes en Albanie, plus les Albanais du Kosovo, plus les Albanais de Macédoine. Et les Arbéresh en Italie.
Justement, tu viens de prononcer Kosovo. On a parlé beaucoup d'Albanais lors de la guerre serbe, Kosovo, etc. Qu'est-ce qu'il en est des relations entre la Serbie, le Kosovo d'aujourd'hui et l'Albanie?
En Albanie, il y a quand même une petite frange de la population qui rêve d'une grande Albanie.
Voilà.
Une grande Albanie, mais ça je pense que à l'heure actuelle c'est une sorte de rêve puisque le Kosovo est devenu indépendant.
Est-il viable?
Est-il viable ça?
D'où le rêve?
Je crois qu'il est porté par les instances internationales sur le plan financier. D'ailleurs il a été administré pendant longtemps par Kouchner, par les puissances européennes. Non, je pense que la situation risque de durer en ce qui concerne la séparation des Albanais en au moins trois États, puisque en Macédoine, je crois qu'ils doivent constituer un tiers de la population, et qui sont d'ailleurs groupés dans la partie la plus occidentale. Donc, effectivement, une grande Albanie pourrait naître si on tenait compte, je crois, du souhait des peuples ou de la répartition des peuples. Mais je crois que c'est pas demain la veille. Mais dans notre périple, je n'ai entendu jamais de revendication concernant l'extension de l'Albanie.
Et leur coup d'œil sur la France, par exemple,
Les gens qu'on a rencontrés, du fait que le fils avait épousé une Française, ils se mettent à apprendre le français, bien sûr, envoyer leurs enfants en France. Certains, d'ailleurs, le français peut être appris dans certains lycées. Ouais. On a rencontré une étudiante qui parlait très bien le français. Et d'ailleurs, elle vient de commencer des études à Strasbourg. Mais c'est surtout l'Italie. Et à partir de l'Italie, c'est le dispatching en direction des États européens. D'ailleurs, dans la famille où nous étions, il y a deux fils. L'un a fait des études en Italie et donc est venu en France à épouser cette Française. Et l'autre, après des études en Italie, il est en Allemagne. Et ils ont de très bons postes, hein, dans la finance. C'est l'anglais qui l'emporte largement, bien sûr. Mais l'italien aussi, parce que il y a quand même cette espèce de passé de colonial, hein, les relations avec Venise et tout ça, qui font que l'italien est une langue qui est apprise, enseignée.
Poser simplement la question de savoir s'il y avait des musées.
Oui.
Il y a
un très beau musée à Tirana, qui est un musée historique.
Bon, on a eu vraiment une brillante présentation de l'Albanie, oui, sur tous les plans, et pour mon compte, je dois dire également sur le plan économique. Je n'ai pas beaucoup de questions à poser. Je pose quand même un problème, c'est concernant la monnaie actuelle de l'Albanie.
Alors
également, si elle est rattachée à une autre monnaie...
C'est le LEK, L-E-K. Et pour 1 euro, c'est 140 LEK. Et c'est un pays très peu cher, très très peu cher. Et moi, je vous conseille d'aller en Albanie, c'est un pays magnifique, et où on est en sécurité totale. Vraiment, faut pas hésiter. Alors, je mets quand même un bémol. Il paraît que l'Albanie du Nord est moins sûre que l'Albanie du Centre et du Sud. Et les mafias sont essentiellement originaires de l'Albanie du Nord, des montagnes de l'Albanie du Nord. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fameuse loi de Kanoun, qui prescrit justement l'organisation des vendettas. Et ça a été supprimé au temps du communisme, mais avec la gabegie, les difficultés qui ont suivi la chute, eh bien, elles ont repris du poil de la bête. Et dans le Kanoun, on ne tuait pas les femmes ni les enfants. Or, il paraît que maintenant, c'est permis. Et on a une centaine de cas dans l'Albanie du Nord où il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils sont sous la menace de mort. Alors, pour échapper à la vente d'État, eh bien, il y a des familles qui ne bougent pas de la maison. Ce sont les femmes qui vont dehors, qui cultivent éventuellement les gens. Les hommes sont loués à la maison. Et ça peut durer sur des dizaines d'années.
Allons-nous faire un voyage après?
Alors, lisez Ismail Kadare, vous avez un livre qui expose ça, c'est Avril brisé, qui est basé sur le Kanoun, dans une période qui était sans doute avant 1945, 1940.
Lors de la création du pays en 1912, quelle était le régime politique avant l'arrivée de nos hommes premiers?
La création en 1912. C'est un pays qui naît en 1912, sous la forme d'une république. Et Zog devient donc le roi.
Il y a aussi des Roms.
Il y a beaucoup de Roms, effectivement. Mais ce n'est pas du tout comme nos gens du voyage. Ils sont sédentarisés, mais dans des sortes de bidonvilles. Et par exemple, à Saranda, dans la grande cité, ils vendaient des moules décortiquées dans des bouteilles. dans des bouteilles de plastique, dans les rues comme ça. Oui, c'est des petits métiers. Oui, et ils travaillent aussi dans les déchets. Il paraît qu'il y a les déchets de l'Europe occidentale aboutissent souvent en direction d'Albanie pour traitement.
Donc, nous, Européens, Français, on doit se dire que dans l'Europe actuelle, il y a encore des pays comme ça, on voit tout le monde. Pratiquement, on voit le développement.
Ben, oui.
Qui va faire partie de l'Europe.
On peut dire la France, bien que tous les industriels qui sont allés les voir, il y a des choses qui sont concrétisées.
Ça, je ne sais pas, je ne sais pas.
On n'en parle pas beaucoup dans les journaux de la panique.
Non, non.
Rien.
Non.
Donc, un voyage à Pamplin en Albanie, un séjour, comme vous voulez. D'accord. On vient de me dire que les routes sont terribles.
Ah, les routes sont terribles.
Merci Gérard. Exposé. Brillant. On savait ça.